sujet de la Révolution française.
Merci Bruno, on se retrouve le mois prochain pour le prochain numéro du Choc du mois. Merci de votre intervention téléphonique et à très bientôt.
Bonsoir Bruno.
Merci.
Au revoir.
Le Choc.
Alors, j'ai donc le bonheur de recevoir dans le studio ce soir trois très bonnes personnes. Donc, je vais commencer par le laïc pour une fois. Hein, nous avons notre camarade ici, Vamio, qui est quand même le président de Sansus. Mettez-vous dans l'icône sans qu'on vous entende la paille. Sansus Fidei. Puis nous avons également l'abbé Philippe Lagri, qu'il faut désormais qualifier du type de supérieur général.
Oui,
de
il faut l'appeler monsieur le supérieur.
Monsieur le supérieur.
Monsieur l'abbé, ça ira bien. L'abbé tout court, je me sens mieux dans cette...
Et puis vous avez entendu la voix de notre ami Guillaume de Tannoy, qui lui aussi fait partie donc de cet institut du Bon Pasteur. Alors, monsieur l'abbé, c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle, c'est une extraordinaire nouvelle. C'est quoi cette érection canonique de l'Institut du Bon Pasteur?
C'est une nouvelle exaltante et des perspectives non moins sensationnel. Imaginez que donc vendredi dernier à Rome a été érigé donc un institut de vie apostolique avec tous les pouvoirs de juridiction fort interne et externe, avec pouvoir d'incardiner, avec pouvoir de créer un séminaire, d'appeler aux ordres, et ceci avec des obligations, j'allais dire attenantes, inespérées, puisque la messe traditionnelle n'est plus seulement pour nous une permission, n'est pas seulement un adulte, n'est plus un passe-droit ou tout ce que vous voulez, mais c'est, je cite les statuts de l'Institut, c'est un usage exclusif et également c'est le rite propre de l'Institut, de sorte qu'un prêtre qui ne célébrerait pas cette messe dans l'Institut n'a pas sa place. Et le cardinal Castrianos a su nous dire, à partir d'aujourd'hui et avec cette érection, la messe traditionnelle n'est plus une permission pour vous. On vous demande de cultiver cela, de ce patrimoine de l'Église pour le bien de la Sainte Église. Donc, quant aux questions doctrinales, j'essaie de résumer ça très brièvement pour qu'on ait le temps de dire d'autres choses. Eh bien, nous sommes invités par les documents signés à bâtir une critique constructive et sérieuse, bien sûr, du Concile Vatican II, en vue d'en donner à terme, par le Saint-Siège, d'aider le Saint-Siège à en donner l'interprétation authentique, ce qui, comme nous le répétons, suppose qu'elle n'est pas tout à fait faite et qu'elle se fait au cours des fils des ans et que nous comptons aider le pape. Alors voyez un peu la révolution que ça représente. C'est révolution dont nous sommes nous-mêmes, M. l'abbé de Tannoir et moi, et les autres membres fondateurs, émerveillés. Plus que on n'a pas du tout envie de la ramener, on est plutôt nous-mêmes subjugués par ce qui vient de se passer.
Voilà, ma réaction à chaud. En fait, il s'agit d'un petit événement qui concerne un petit groupe de prêtres et de quelques séminaristes, mais qui est gros d'énormes conséquences, si on y réfléchit bien.
Si on en juge par la réaction de la presse, c'est hallucinant l'événement que c'est une bombe atomique. Demain paraît, je vais peut-être laisser la parole à M. l'abbé de Tannoir, demain paraît un numéro de La Vie. Écoutez bien comment ça s'intitule. Je laisse la parole à M. l'abbé.
Je comprends que votre modestie souffre un peu du titre de La Vie, ou des titres de La Vie, puisque je crois qu'ils ont un peu évolué. L'abbé Lagueri vaut-il une messe?
Ça
c'est pas mal quand même. Hein. Oui. Mais il y a un autre titre sur Internet, et c'est assez curieux, de sectarisme. Je pense que leur sectarisme aura définitivement fait ce choix.
En kiosque demain.
C'est donc... imaginez une couverture avec donc l'abbé Lagueri dans le viseur, en quelque sorte, et le titre c'est « Cet homme-là devait rester dehors ».« Cet homme-là devait rester dehors ». Vous avez bien entendu, de la part de chrétiens.
C'est très chrétien.
Ces gens-là qui nous ont traités d'excommuniés et de schismatiques comme ça pendant 20 ans, 30 ans, et quand vous arrangez les affaires, ils...
Continue
de vous dire il fallait pas qu'il rentre. Non,
mais
attendez, il faut
mais
quand
on
même.
On voit où est la haine. Là, c'est très clair. Je ne parle pas du tout en général et je ne veux pas généraliser, mais je dis que ce titre de La Vie est un titre de haine.
Oui, c'est des gens qui se prennent pour le magistère. Il se trouve qu'il y a un vrai magistère dans l'église, que le magistère vient de se prononcer. On n'y peut rien, c'est extrêmement triste, très frustrant. Je reconnais, mais je vraiment, on priera beaucoup. Je suis très triste.
Je suis très triste pour ces gens.
Le Christ descendrait sur Terre, il n'écouterait pas beaucoup plus.
Alors, vous êtes un nombre de prêtres limité, pour l'heure. Vous êtes 5 prêtres.
Pour l'instant, nous sommes 5 prêtres, les abbés Olanier, De Tanoirne, Héry, Forestier, votre serviteur, un diacre qui est déjà incarné dans l'Institut, l'abbé Prieur. Mais nous avons 4 séminaristes prêts à l'ordination et nous avons la promesse ferme et soutenue du cardinal Castellanos de venir faire les ordinations sacerdotales. Nous passerons tout de suite à 9. Nous avons quelques prêtres dont je ne donne pas l'origine ni le nom pour l'instant qui nous rejoignent tout de suite, très vite, dans les jours qui viennent, parce que c'est un petit peu diplomatiquement difficile, pas pour eux ni pour nous, mais pour d'autres. Et enfin, nous avons une dizaine de prêtres d'Amérique du Sud prêts à nous rejoindre parce qu'ils ont souffert des mêmes maux et je crois qu'ils vont prendre les mêmes remèdes. Donc on va se retrouver une vingtaine très rapidement avec l'ouverture d'un séminaire, donc plus les séminaristes qu'on prend à la base et d'autres qui veulent rejoindre en cours. Enfin, c'est un peu étonnant en quelques jours cet engouement pour le bon pasteur, tant dans la haine qu'il déchaîne que l'amour aussi qu'il est capable de mettre en route
et de l'intérêt.
Je pense que le bon pasteur est plus.
Vous parlez d'amour, monsieur Abbé, je ne résiste pas à citer cette lettre d'une dame qui dit: hier soir, 12 septembre 2006, rue Saint-Joseph à Paris, nous avions la messe d'action de grâce.
Magnifique, magnifique.
Un des plus beaux jours de ma vie. C'était le bonheur à l'état pur. J'ai retrouvé la fièvre des messes dominicales. Une nouvelle vie s'annonce pour nous. Je suis peut-être naïve, mais je crois au bonheur.
C'est quand même un magnifique témoignage.
Je remercie de tout cœur cette dame.
Cet accord signé est un aboutissement. Mais cet aboutissement lui-même n'est rien, parce que c'est le commencement de beaucoup de travail.
Vous faites bien de le souligner. Ce que nous avons obtenu grâce à la bienveillance et du cardinal Castellanos et de Mgr Ricard, qui a quand même, je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure, mais qui a accepté d'ériger dans son diocèse l'Institut du Bon Pasteur et de négocier une convention qui va se passer, je rencontre le cardinal le jeudi prochain, avec l'Institut du Bon Pasteur, et nous donc en l'occurrence, pour confier une paroisse personnelle, encore une première, une paroisse personnelle qui sera confiée non plus à un homme seul, comme c'est le cas à Toulon, M. l'abbé Loiseau, qui a bien fait, on est d'accord, mais à un institut.
Une petite question, Monsieur l'abbé Lagueri. Est-ce que cette convention que vous allez mettre au point avec son éminence révérendissime servira en quelque sorte de prototype pour l'ensemble des négociations que vous aurez ensuite dans d'autres diocèses? Est-ce qu'elle servira là ou est-ce qu'à chaque fois il faudra que renégocier un protocole d'une convention?
Très bonne question. Évidemment que nous allons faire en sorte, avec l'aide de Dieu, que cette convention soit la plus favorable possible à la tradition et à l'exercice du culte sans entrave, quoi. Qu'on puisse avoir enfin, que les prêtres de la tradition catholique qui se sont battus tant d'années puissent avoir une paroisse à eux où ils font du bon travail sans ennui. Enfin, ça paraît, on a l'impression de demander la lune, ben c'est quand même normal qu'un prêtre ait une paroisse où il puisse baptiser, confesser, dire la messe et accueillir ses fidèles. Alors, bref, c'est un rêve, mais c'est un rêve qui est français. Alors, il est évident que la teneur de cette première... ce premier contrat est décisive pour la suite, parce que d'abord c'est la première pour nous, elle est marquée dans les statuts, c'est-à-dire qu'elle doit être faite, cette convention. Il n'est pas question de reculer ni de part ni d'autre, mais aussi à cause de la personnalité considérable de l'évêque qui fait cela, le cardinal archevêque de Bordeaux, président de la conférence épiscopale. Voilà. Alors, effectivement...
Et membre de la commission Ecclesia Dei à Rome.
Et la commission Ecclesia Dei à Rome est
très bien introduit auprès du pape.
Donc, si vous voulez, ce premier protocole d'accord va être vraiment, vraiment très important. Et il me semble difficile, après, lorsque nous aurons les opportunités, à un évêque français de dire, écoutez, le pape est d'accord, parce que nous avons eu le soutien du pape expressément signifié par le cardinal Castellanos. Il me paraît difficile suite à un évêque de dire, écoutez, le jugement du pape, ça m'est égal, votre institut de droit pontifié, ça m'est égal, la convention signée à Saint-Éloi par le cardinal Ricard, ça m'est égal. Enfin, ça ferait beaucoup de choses pour l'évêque. Remarquez, on peut encore trouver, on ne manque pas d'originalité dans l'épiscopat français, ça nous le savons. Hein. Mais enfin, ça fait quand même un outil merveilleux, et comme vous disiez fort justement, j'invite les fidèles à se réjouir sans doute, et à partager notre action de grâce, mais attention, il s'agit de retrousser les manches.
tout est à faire. C'est comme un outil, on vient acheter la boîte à outils, elle est là, prête à servir, mais enfin, encore faut-il retrousser ses manches, et puis se servir des clés à molette et des tournevis et tout, tout le reste.
Mon cher Abbé Tour, Abbé Laguerie qui est un bâtisseur, c'est de quoi il parle.
Oui, non, je lui fais confiance parce qu'elle s'est retroussée les manches. Simplement, vous faisiez allusion au combat, bon, admirable, évidemment, de tous ces prêtres qui se sont battus pour la tradition, mais le combat tout admirable aussi est celui des laïcs, qui ont soutenu de toute leur force ce combat pour la tradition.
C'est vrai, nous sommes...
Alors, je donne la parole à Yves Amiot.
Je permets simplement d'introduire, sans les laïcs, nous n'aurions rien pu faire. Je le dis, tant à Paris, par le soutien de M. Amiot avec son association, tant à Bordeaux. Imaginez que le lendemain de l'été 2004, et les fidèles de M. l'abbé Tanoir à Paris, et ceux de Saint-Éloi, que je félicite et que je suis content de les saluer ce soir, s'ils m'écoutent sur le net.
Il y en a qui nous écoutent.
Vraiment, je suis fier d'eux. Ben, si c'était à ce moment-là désintéressé, eh bien, il n'y aurait rien eu de fait. Alors, merci M. Amiot à Paris et merci à ses fidèles de Bordeaux.
Merci M. Levé, parce que nous aussi, nous n'aurions rien pu faire si vous ne nous aviez pas indiqué la voie à suivre et si vous ne l'aviez pas défriché devant nous. C'est très important parce que Sensus Fidei, effectivement, depuis un an, a travaillé, a milité et a œuvré en faveur de la création de cet institut, bien sûr, dans la limite de notre statut et dans la mesure de nos moyens. Mais c'est pour nous une joie très profonde, une joie incommensurable de voir que tout d'un coup, ce qu'on n'osait pas espérer a abouti. C'est extraordinaire et je dirais qu'on est envahi de bonheur et qu'on remercie la Providence à chaque instant. Ceci dit, pour reprendre une phrase célèbre, soldat, vous n'avez rien fait parce qu'il vous reste à faire. Nous n'avons rien fait parce qu'il nous reste à faire. Bon, il nous reste à faire tout. Il nous reste à faire tout, c'est-à-dire à seconder nos prêtres, comme nous avons eu le bonheur de le faire par le passé, pour que ville après ville, évêché après évêché, nous parvenions à apporter la bonne nouvelle dans tous les domaines. Et je demande à tous nos adhérents en Suisse Fidèle, qui sont à l'heure actuelle 500 personnes, de redoubler d'efforts dans ce sens. Nous aurons une réunion, d'ailleurs, je pense, d'ici la fin de l'année, pour bien préciser tout cela. Et je demande aussi à tous les laïcs de bonne foi et de bonne volonté qui veulent se joindre à nous, de le faire. Le moment est venu, car le nombre que nous serons comptera beaucoup dans le devenir de la mission qui nous est dévolue. Et je demande à tous les laïcs chrétiens fidèles de proposer leur inscription à Sensus Fidei, qui nous écrivent
dans l'adresse
2 rue Narcisse Diaz, 75016 Paris.
Alors on va peut-être redire
2 rue Narcisse Diaz, 75016 Paris. Et nous serons d'autant plus nombreux que nous serons plus efficaces, et c'est l'appel que je leur lance.
Que cet appel soit entendu, cher Yves Amiot. Une question d'un auditeur, il faut la prendre, et je vous demande, monsieur l'abbé, de la prendre comme il faut, parce qu'un mot me gêne. Cet auditeur pose la question suivante. N'est-ce pas un camouflet pour la fraternité Saint-Pierre, aurait-il démérité ?
Écoutez, loin de moi ici de vouloir entreprendre une polémique avec la fraternité Saint-Pierre. Je compte parmi elles des amis prêtres dont je garantis la valeur et j'aimerais que tous les prêtres que je connais dans la fraternité Saint-Pierre soient de cette qualité et qui le vaut bien à Saint-Pédis et j'espère à ce que nous allons faire. Donc ceci est hors de cause. Il se trouve que pour deux raisons, à mon avis, la fraternité Saint-Pierre a connu de profondes difficultés desquelles elle est en train de se sortir, ce qui d'ailleurs nous réjouit. La première difficulté, c'est sa fondation. Sa fondation a été alarmante, si je puis dire, parce que effectivement, c'est la séparation de 88 entre ceux qui sont restés fidèles à Mgr Lefebvre comme nous et qui entendons bien le demeurer. Et puis voilà. Et dans une fondation, il y a toujours un moment historique qui, ce moment, a été critique, qu'on le veuille ou non. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont eu une division chez eux à cause des biritualistes. Comment voulez-vous que dans une congrégation de missionnaires de rite d'apostolique, de vie apostolique, vous en ayez qui célèbrent la nouvelle messe et d'autres l'ancienne ? C'est le tohu-bohu, comme disait le général. Attendez, c'est le tohu-bohu. Et ils ont eu le tohu-bohu. Ça a été terrible, quoi. La Fraternité Saint-Pierre a failli périr. Donc, bien heureusement, le super général qui vient d'être élu, M. l'abbé John Baer, et puis le super district de France, M. l'abbé Ripton, reprennent les choses en main. Et j'espère que la tendance birritualiste de la Fraternité Saint-Pierre va être expurgée comme ils ont entrepris le travail. Ce qui n'est pas facile, d'ailleurs. Parce qu'ils ont rencontré donc le cardinal Barbarin la semaine dernière, et c'est pas facile de négocier, de replacer des gens qui veulent rester vraiment fidèles à la messe à la place de ceux qui... Voilà.
C'est donc, peut-être là où vous les aidez. Alors nous, indirectement.
Eh bien nous les aidons, puisque j'ai des témoignages qu'effectivement des évêques, je donne pas de nom, mais on dit après ce qui vient de se passer avec l'Institut du Mont Pasteur, il n'est plus question de demander au prêtre de la Fraternité de concélébrer ou de dire jamais la nouvelle messe. Donc c'est déjà un fruit existant, patent et tangible de l'Institut Mon Pasteur.
Peut-être une question à M. l'abbé de Tannoy, parce que son statut lui particulier à Paris, parce que Bordeaux, c'est très bien, vous avez le patron là-bas sur place et vous êtes vous-même le patron, donc entre patrons on s'entend, mais à Paris c'est peut-être un peu plus difficile.
À Paris, écoutez, nous vivons de la générosité des fidèles, de l'intérêt qu'ils nous portent, qui ne s'est pas démenti depuis un an. J'invite d'ailleurs tout le monde à la conférence que je donnerai mardi prochain sur Benoît XVI en Bavière, pour faire un petit peu le point sur toutes les flèches que lance le pape Benoît XVI aux religieusement corrects. Je crois que c'est vraiment assez étonnant à étudier. Donc cette conférence aura lieu, comme toutes les conférences du mardi l'année dernière, donc mardi prochain à 20h au Centre Saint-Paul, conférence de rentrée. Et on pourra peut-être je pourrais peut-être vous en dire plus quand j'aurai vu l'archevêque de Paris, qui pour l'instant a des questions très importantes à poser à Rome, me fait-il dire. Donc j'attends qu'il ait posé ses questions pour pouvoir vous parler. Mais je voudrais peut-être aussi parler aux pisse vinaigre et aux inquiets. Ce n'est pas la même catégorie, mais je voudrais leur dire une chose, parce qu'on dit souvent vous n'avez pas eu d'évêque. Mais une prélature personnelle ou une administration apostolique n'aurait absolument eu rien de plus que ce que nous avons. Et au contraire, nous avons la possibilité d'installer des œuvres qui ne sont pas des œuvres d'apostolat en dehors d'une autorisation explicite des évêques. Il ne s'agit pas de les prendre d'ailleurs en traître, mais je veux dire que nous ne relevons des évêques que pour l'apostolat extérieur, alors que dans une administration apostolique ou dans une prélature personnelle, et cela est trop peu aperçu, en particulier par les forumeurs de tout pelage que je salue, il y aurait eu à chaque fois autorisation à demander pour la moindre installation.
D'autant plus, si je peux permettre, que M. l'abbé explique clairement que le clivage entre prélature personnelle d'une part et administration apostolique, et puis d'autre part cet institut dit apostolique, les uns ont besoin d'autorisation de l'évêque et les autres non. Ben ça c'est faux.
D'autant plus que
c'est simplement faux.
L'institut du bon pasteur,
c'est le canon 738 paragraphe 2, de toute façon.
L'institut du bon pasteur n'est pas limité aux frontières de l'Hexagone. Excusez-moi ce mot horrible.
Tout à fait, puisqu'on a déjà une dizaine de candidatures de prêtres excellents en Amérique du Sud et un ou deux Polonais et quelques autres. Enfin, ça va très vite. On n'a que 3 jours d'existence, hein, n'oubliez pas. Hein, donc, laissez-nous le temps de vivre encore quelques mois. Hein, vous verrez ce que vous verrez.
Monsieur l'abbé, messieurs les abbés, notre émission s'achève. Il nous reste une minute. David, peut-être, mais vite.
Oui, juste un témoignage et en même temps un appel de quelqu'un qui n'a jamais fréquenté ces milieux ou assisté même simplement à une messe de Saint-Pie-V. Je voudrais dire que c'est un moment d'action de grâce, qu'un mur de Berlin est tombé, que nous avons en face de nous, entre chrétiens, l'occasion de célébrer vraiment l'unité pleine et complète, et que de mon côté, j'appelle vraiment tous les chrétiens et catholiques fervents à ouvrir grand leurs bras à tous ces frères qui sont là et avec qui nous allons faire un bon travail.
Un simple mot dans ce sens.
Merci.
Un simple mot dans ce sens, c'est que tous les fidèles de la fraternité Saint-Pie-X et leurs prêtres, nous sommes plus près d'eux que jamais. Ce que nous les aimons plus que jamais, nous souhaitons plus que jamais qu'ils se rapprochent de nous et qu'un jour nous nous retrouvions dans une commune foi catholique empreinte avant tout de charité. Donc ça n'est pas contre la fraternité, c'est pour elle, dans son intérêt, que nous travaillons et que nous resterons toujours unis de cœur avec eux pour aboutir à chaque fois.
Eh bien, remercions avant tout Benoît XVI. qui opère la communion de l'unité de toute l'Église dans ses légitimes diversités, et je me félicite beaucoup de cette nouvelle. Monsieur l'abbé, vous serez ici chez vous quand vous le souhaitez, que vous aurez des informations à nous donner, mais monsieur l'abbé Tarland, il vient très très souvent, rassurez-vous.
Il est plus près.
Merci à tous,
merci,
on se retrouve dans 15 jours, d'ici là bien sûr, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 13 septembre de 18 à 21h, en différé jeudi 14 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et